Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Solène Robin.
Bonjour, Point de mire met aujourd'hui à l'honneur le prix Bernard d'Estremoux. Un prix pas tout à fait comme les autres qui récompense des sportifs. Alors des sportifs, mais pas seulement. Nous allons y revenir un peu plus en détail, mais je tiens d'abord à remercier Gilles d'Estremoux et Cédric Dubourdieu d'avoir accepté notre invitation. Gilles d'Estremoux, le fils de Bernard d'Estremoux, et Cédric Dubourdieu, le lauréat 2005 de ce prix. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors avant que vous ne nous en disiez davantage, rappelons que le prix Bernard d'Estremoux est remis chaque année en novembre par l'Académie des sciences morales et politiques depuis 5 ans. Je disais donc que ce prix récompense un éminent sportif, mais pas seulement. En effet, pour pouvoir aspirer un jour à recevoir sa distinction, il faut avoir réussi conjointement à atteindre un niveau d'excellence dans le sport et un parcours étudiant remarquable. Bernard d'Estremoux aurait donc fait un parfait candidat. Ce tennisman hors pair a en effet été 6 fois numéro 1 du classement national, participé 3 fois à la Coupe Davis. On lui connaît également une courte carrière de capitaine d'équipe de France, ainsi pas moins qu'une victoire en double aux internationaux de Roland-Garros en 1937. Cet héritier des mousquetaires a accordé très tôt un attachement particulier à la combinaison sport et hautes études. Plutôt que se complaire dans un univers de luxe et de notoriété, il poursuivra donc des études prestigieuses, HEC puis Sciences Po. S'en suivra une longue carrière de diplomate puis d'homme politique. Bernard d'Estremoux a en effet été député dans les années 60 et 70 et secrétaire d'État un peu plus tard. Et quand l'heure de la retraite sonne, elle ne sonne jamais véritablement pour Bernard d'Estremoux. Il emploiera donc les 20 dernières années de sa vie à écrire des livres d'histoire. Une telle hyperactivité marque sans doute aussi un peu une bataille sans fin pour s'abstraire de l'image pure sportif qui lui colle à la peau depuis toujours. Élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1995, Bernard d'Estremoux a institué le prix éponyme en 2000 pour récompenser chaque année un jeune sportif de haut niveau qui aura également brillé dans ses études. Il n'aura lui-même connu que la première remise de prix en 2001, puisqu'il est malheureusement décédé en 2002, mais le prix continue d'honorer sa mémoire depuis chaque année. Alors Gilles d'Estremoux, l'Académie remet donc chaque année ce prix depuis 5 ans. Votre père était lui-même membre de cette Académie depuis 1995. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer d'où est venue cette idée de créer ce prix ?
Bien sûr, merci de nous accueillir dans ce studio pour parler un petit peu de ce prix qui est remis chaque année en novembre sous la coupole lors de la séance solennelle de la remise des prix, au milieu de nombreux autres prix tout aussi prestigieux. Mais celui-ci, c'est vrai, a un parfum un peu particulier puisque c'est le seul qui associe le sport avec l'exercice ou l'excellence intellectuelle. L'origine, elle vient d'une discussion que j'avais eue avec mon père un jour, tout à fait informelle, et je lui avais dit, mais il n'y a pas de coupe ou de prix, c'était vers la fin de sa vie, qui honore son nom, puisqu'il y a des coupes de sport, dans tout ordre, dans son sport ou dans d'autres. Et il a réfléchi et il m'a dit, ben, je vais voir ça. Et puis quelques semaines plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, mais je ne souhaiterais pas remettre un prix purement sportif, mais j'ai trouvé une formule dans le cadre de l'Institut de prix qui est peut-être beaucoup à mon image, mais qui correspond à ma vie et qui consiste à récompenser, donc, selon les termes exacts de la charte de ce prix que je vais lire, qui est attribué donc, à un athlète de haut niveau qui a su concilier la pratique du sport de compétition avec la poursuite d'études supérieures, donnant ainsi l'exemple d'une formation équilibrée.
Très bien. Et donc ce prix reflète un petit peu la carrière ou le doublon gagnant que votre père avait réussi à...
Oui, on pourrait imaginer que c'est un peu la recherche utopique ou la recherche d'une chimère aujourd'hui où le sport professionnel domine tout. Il y a encore des sports qui ne sont pas rémunérateurs, mais les sports principaux ont versé dans le professionnalisme. Les Jeux Olympiques, maintenant, sont ouverts aux professionnels depuis de nombreuses années maintenant. Et on pourrait imaginer qu'il est de plus en plus difficile de concilier le sport avec des études de haut niveau. Et l'esprit de ce prix, c'était peut-être de combattre un petit peu une forme d'aliénation que peuvent connaître certains sportifs de haut niveau qui se donnent à fond dans le sport, qui subissent souvent des blessures, très rapidement, très jeune, et qui sont également tentés, poussés par la pression, peut-être quelquefois par leur entourage, à s'adonner au dopage. L'idée de ce prix, c'est d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a un avenir après le sport, qui n'est pas seulement celui d'un retraité sportif ou d'un entraîneur ou d'un coach, mais qu'avec une formation adéquate, à tout niveau, mais en l'occurrence pour ce prix de haut niveau, un sportif peut réussir sa reconversion.
Mais alors justement, si on revient un petit peu en arrière, votre père, même à l'époque, au moment où il a suivi son parcours à HEC, puisqu'il a été diplômé en 1936, les grands tennismen et les plus grands sportifs vivaient déjà dans une certaine notoriété, avaient accès à un certain luxe, les grands palaces, etc. Qu'est-ce qui a fait que lui-même, à l'époque, où le sport était peut-être moins professionnalisé, il a choisi de privilégier, enfin, ni l'un ni l'autre, mais d'allier les deux?
Il y avait un entourage familial qui le cadrait, qui faisait qu'il l'a dit lui-même dans un livre, dans des entretiens, que ses parents étaient très attachés aux études. Son entourage, ses frères avaient fait des études et son père notamment ne le permettait pas d'aller dans des compétitions sportives de haut niveau s'il n'avait pas réussi son année. En particulier, en 1938, je crois qu'il l'a dit, il avait échoué, je crois, aux examens de sortie d'HEC. Il est sorti en juin 39. Et son père lui a interdit d'aller aux États-Unis, disputer les championnats des États-Unis de Forest Hills, pour lesquels il avait été sélectionné, pour lesquels le voyage était payé par la fédération. Donc, il y avait, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, il avait une pression familiale. Ce n'était pas que de lui-même. Mais il avait aussi une inclination personnelle pour les études, pour cet équilibre. Et lui-même l'a dit qu'il retrouvait ses livres avec plaisir après une partie ou un match international. Ça faisait partie de quelque chose dont il avait besoin pour son équilibre.
Oui. D'accord. Mmh. Et donc, au-delà de cette culture familiale, justement, il aurait pu à un moment donné être tenté de renoncer à la pratique du sport et privilégier les études, puisque c'était l'environnement dans lequel il avait évolué.
Je pense que c'était une tentation, peut-être pas permanente, mais qui devait le tenailler régulièrement. Il y avait quand même l'exemple dans son sport, dans le tennis, mais dans d'autres sports aussi. Je pense au rugby avec Yves Dumanoir, qui était un polytechnicien, par exemple. Il y avait l'exemple de Jean Borotra, qui était le mousquetaire qui avait fait Polytechnique, qui était son aîné d'une quinzaine d'années, et qui le connaissait très bien. Il y avait dans le monde du tennis parisien, il y avait un autre polytechnicien qui s'appelait Glasser, qui avait été en première série, qui avait fait Polytechnique. Donc, ce n'était pas un objectif déraisonnable ou irréalisable, disons. Mais quand il a terminé HEC en 1939, il a pris la décision de consacrer plusieurs années, deux, trois années, uniquement au tennis. Puisqu'il n'y était pas arrivé en faisant HEC, il avait perdu deux ou trois places au classement. Il était numéro 3 au lieu d'être numéro 1, ce qui est déjà exceptionnel. Mais il sentait qu'il ne progressait plus. D'ailleurs, il l'a dit dans un entretien. Et en 1939, il avait pris cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1939?
La guerre.
La guerre a éclaté. Il a dû rentrer en France. Il était aux États-Unis fin 1939 pour Forest Hills. Il y est rentré en bateau et il a été incorporé sous les drapeaux. C'est ensuite la guerre de 40, la démobilisation. Et il a, comme beaucoup de Français, il était désorienté. Il a repris des études, puisqu'à ce moment-là, il est rentré à Sciences Po.
C'était un petit peu dû, finalement, au fait que la guerre a éclaté. Enfin, est-ce que le fait qu'il ait, en plus d'HEC, suivi un cursus à Sciences Po...
Je crois qu'il avait senti qu'il n'était peut-être pas tellement fait pour les métiers commerciaux.
D'accord.
Et ses voyages, par le tennis en particulier, l'avaient fait rencontrer des diplomates. Ils étaient invités avant-guerre dans les ambassades, quand ils étaient à Berlin ou en Suède ou en Angleterre. Il avait rencontré un grand ambassadeur comme François Poncet, par exemple, avant la guerre, qui lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne rejoindriez pas le corps diplomatique ? Puisque vous ne savez apparemment, vous n'êtes pas décidé sur ce que vous allez faire. » Il est entré à Sciences Po, il a repris la raquette. Il y a eu quelques compétitions en France en 1941-1942, mais on ne pouvait pas voyager pour faire de grandes compétitions internationales. Donc c'était assez frustrant. On pouvait voyager en Espagne, au Portugal, en Belgique, dans des pays, en Italie, dans des pays conquis, ou en tout cas dans des pays vers lesquels l'occupant allemand vous permettait de voyager. Et à ce moment-là, Sciences Po étant terminé, son diplôme de Sciences Po en poche, il s'est tourné là vers une toute autre vie.
D'accord, et il a donc eu un joli parcours dans le monde diplomatique.
Alors, d'abord, il s'est évadé. Il a pris la décision importante de partir en Afrique du Nord avec des amis. Mais beaucoup de jeunes se sont dit, là, c'est quand même un tournant. On y voit plus clair et allons vers notre destin. peut-être allons aider ces Français qui se battent pour libérer la France.
Alors,
donc, il y a eu 2 années de guerre, pour lesquelles, donc là, c'est un peu la troisième facette de mon père, qui est la facette militaire.
D'accord. Qui revient un petit peu aussi à une espèce de structure familiale aussi, où il a grandi.
C'est vrai. Mais beaucoup d'autres jeunes qui n'avaient pas cette structure l'ont fait.
Également, oui. Mais alors, à cette époque, donc, il a un petit peu freiné la pratique du tennis, ou il a toujours continué avec autant d'assiduité?
Alors là, la raquette et les balles ont été rangées, mises au clou, comme on dit en termes tennistiques, pendant 3 ans, où il a été officier de char dans la première division blindée. Il a eu, entre guillemets, la chance, parce que beaucoup de jeunes voulaient se battre, hein, il a eu la chance de se voir confier ce qu'on appelait un peloton de combat et ne pas être mis dans un bureau ou dans un corps administratif. Et donc, il a participé à des pages glorieuses, hein, de l'histoire de France, puisque dans l'histoire de France, il n'y a pas d'exemple d'une armée française constituée à l'étranger qui est débarquée en France pour libérer notre pays.
D'accord.
Donc c'est une épopée assez unique qui l'a conduit donc d'Oran en Afrique du Nord jusqu'à Constance en Allemagne, à travers la Provence, la vallée du Rhône, l'Alsace et l'Allemagne.
D'accord. Mais alors, je reviens un petit peu sur justement ce qui a conduit votre père à créer Esprit. Lui, à l'époque, il était animé d'une indéfectible motivation. Il a continué la pratique du tennis à très haut niveau jusque dans les années 50. À l'époque, le sport était beaucoup moins professionnalisé. Quel regard plutôt portait-il sur la fin de sa vie, sur justement la professionnalisation qui était croissante dans le milieu du sport et la tendance des jeunes à abandonner leurs études?
Mon père était favorable au sport professionnel. Il a dit, il a écrit très tôt avec le président de la Fédération française de tennis, qui ne l'était pas à l'époque, qui s'appelait Philippe Châtrier, qui a beaucoup apporté au tennis. Il ne comprenait pas que le tennis reste un sport officiellement amateur, alors qu'il y avait beaucoup de pratiques de ce qu'on appelait de dessous de table, donc de remise de prix non officialisées.
D'accord.
Mais il a voulu créer ce prix pour encourager des jeunes qui pouvaient être tentés de tout abandonner pour l'argent du sport et pour la gloire du sport, en attirant l'attention sur le fait qu'il était possible, puisque nous avons réussi à trouver un certain nombre de lauréats, qu'il était tout à fait possible de réussir aujourd'hui à concilier le sport de haut niveau.
Alors justement, vous dites que vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver des lauréats. Justement, comment est-ce que le recrutement ou la découverte des lauréats se passe-t-elle? Est-ce que ce sont les fédérations? Est-ce que ce sont les candidats eux-mêmes qui postulent quelque part directement? Expliquez-nous un petit peu.
Il n'y a pas vraiment de processus organisé ou de procédure. Le premier candidat, en fait, a été trouvé, je crois, directement par mon père, par une candidature spontanée ou par une relation personnel, c'était un karatéka, un garçon qui avait un doctorat de philosophie et qui était HEC et qui avait été champion du monde de karaté universitaire.
D'accord.
Mais aujourd'hui, de façon un peu plus systématique, l'Académie des sciences morales envoie des courriers aux fédérations françaises, les sensibilisant sur l'existence de ce prix et en leur demandant de proposer des candidatures. Donc l'Académie reçoit une quinzaine, ça dépend des années, ça dépend des crues, je dirais, entre 5 et 15 candidatures par an. Mais nous sommes aussi ouverts à des candidatures dites spontanées.
D'accord.
Petites annonces.
Peut-être pas par petites annonces, parce que ça s'adresse quand même à une... Je n'aime pas le mot élite, mais ça s'adresse quand même à des gens qui ont réussi quelque chose, des garçons ou des filles, quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on fait aussi un peu de recherche personnelle, c'est-à-dire que moi-même, ainsi que les administrateurs de l'Académie sont à l'écoute aussi de parcours exceptionnels dont on peut entendre parler dans les journaux ou ailleurs.
Alors, combien à peu près de candidatures par an?
Écoutez, je vous disais, les crues sont assez inégaux. Il y a eu des années un petit peu creuses. On a eu beaucoup de candidats, mais par exemple, qui ne présentaient un parcours universitaire que d'études visant à obtenir un professorat d'éducation physique, par exemple. Ce qui n'a évidemment rien de mal en soi, mais qui ne correspond pas tout à fait à l'orientation du prix.
De candidatures, disons, valables.
Alors, des candidatures valables, on peut en avoir facilement une bonne demi-douzaine.
D'accord.
Et après, ensuite, je crois que le choix se fait On fait une liste réduite, peut-être de 3. Mm-hmm. Et puis ensuite, moi, je n'assiste pas. C'est une décision qui est propre
d'accord,
à l'académie.
C'est l'académie qui statue.
Qui décide, le bureau de l'académie qui statue. Et sur les 3 meilleurs, il faut se décider à un moment donné sur un candidat.
D'accord.
D'ailleurs, il est tout à fait possible qu'on reporte sur l'année suivante des candidatures qui n'ont pas été retenues.
D'accord.
Ou qui n'ont pas été
sélectionnées,
qui n'ont pas été lauréates l'année précédente.
D'accord. Alors donc, un ancien candidat à lauréat, on en a un avec nous. Donc, Cédric Dubourdieu, vous avez été lauréat en 2005 du prix Bernard Destremau.
J'ai l'impression que j'étais co-récipiendaire
voilà,
avec mon frère.
Avec votre frère jumeau, donc, Damien.
Pas jumeau, mais mon frère quand même.
D'accord, je pensais. Et donc, vous avez été un tennisman à haut niveau puisque vous avez atteint le classement moins 15, tout en poursuivant des études à Polytechnique.
Ouais.
Alors, votre frère, lui, a été classé moins 30 et lui a suivi un cursus à Centrale.
C'est vrai.
Alors, le parcours que vous avez suivi pourrait faire pâlir d'envie même les plus courageux. Mais concrètement, comment on y parvient à réaliser cette conciliation
reprendre ce que disait Gilles, déjà, il y a déjà un amour d'un sport. Donc ça, c'est évident. Et mon frère et moi, et aussi mon petit frère maintenant, on a été baignés dans ce sport très tôt par nos parents. Et comme le disait Gilles, nos parents, c'était une condition sine qua non qu'on fasse ce sport qui nous plaisait quand on était petit, à condition qu'on ait des résultats satisfaisants à l'école. Donc moi, je pense que très rapidement, Damien et moi, enfin mon frère et moi, on s'est aussi dit que faire des études, c'était pas complètement stupide et que ça pouvait aider dans la vie. Donc je pense qu'assez rapidement, on a eu aussi envie d'exceller autant que faire se peut dans nos études. Mais bon, il y a eu quand même cette condition sine qua non de nos parents, et notamment à l'époque, dans les années 80, quand on commençait à avoir un bon niveau chez les jeunes, on a été assez rapidement contacté par la Fédération française de tennis pour aller dans les sports-études, les choses comme ça. Où là, clairement, très jeune, vers 11, 12 ou 13 ans, un choix se fait quand même assez rapidement vers le sport. Et même si c'est un sport-études, les études sont pas souvent un peu au second plan. Clairement, c'était pas envisageable pour nos parents. Donc, ça nous a pas empêché, surtout mon frère, qui avait un meilleur niveau que moi, d'atteindre un très très bon niveau, largement au niveau national, notamment pour Damien, tout en continuant des études. Alors bon, voilà, c'est aussi un petit peu...
Alors, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, c'est faisable.
Non, je pense, effectivement, c'est une question d'organisation. Donc, quand on est petit, je pense que, après, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité que d'autres dans les études, et notamment dans les petites classes. Moi, je considère que jusqu'au bac, on peut concilier sans problème un sport de haut niveau. Alors, de plus en plus, comme le disait Gilles, il y a certains sports, on peut les prendre, le tennis, le football, le rugby maintenant, le basket, où effectivement, le fait de s'entraîner et en plus faire des études devient de plus en plus difficile. Et pour atteindre les premières places mondiales, clairement, je pense aujourd'hui dans le tennis, comme l'a pu le faire le père de Gilles, ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, atteindre un bon niveau national dans ces sports-là, ça n'est pas tout à fait envisageable. Juste avoir un petit peu de...
Justement, est-ce qu'il y a un moment où vous avez regretté d'avoir justement concilié les deux et en vous disant j'aurais pu atteindre un meilleur niveau au tennis?
Moi non, parce que j'étais pas assez bon au tennis. Non, mais on voit ses limites. je pense que mon frère, oui. Et qu'il avait hésité en fait, après son bac, justement, avant de commencer sa classe préparatoire, à partir sur le circuit. Et bon, il s'est fait convaincre, je pense à juste titre, a posteriori, de ne pas le faire. Et il a beaucoup regretté pendant les premières années, notamment ce qu'il voyait, c'est tous ses camarades de jeu de l'époque qui commençaient, qui c'est des gens comme Clément, Grosjean, les gens qui ont après escudé, qui ont percé après dans le monde du tennis. Et je pense qu'il avait un regret de voir que les gens contre qui il jouait, qu'il avait pu battre quand il était plus jeune, commençaient à avoir une carrière sportive beaucoup plus importante.
Mais justement, avec le recul aujourd'hui, un petit peu plus tard, une fois inséré dans le monde professionnel, quel regard il porte sur ce...
Je pense qu'il porte un regard où, bon, il est content d'avoir atteint ce niveau-là. En même temps, c'est un choix très risqué, notamment à cause des blessures. Donc, quand vous êtes un sportif de haut niveau, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Damien assez rapidement. Alors après, il peut y avoir aussi une histoire de vase communicant, dans le sens où lui, il a été blessé assez rapidement après son bac. Alors, on peut dire aussi c'est parce qu'il ne s'est pas entraîné et donc il a été blessé. Mais enfin bon, il y a un risque notamment de blessures très importantes. Et si vous n'avez pas fait d'études, derrière, vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau. Alors, il y a des sports, c'est encore plus criant. Enfin, moi, après ma carrière modeste de tennisman, je me suis lancé dans le rugby, et à titre tout à fait amateur. Et clairement, si vous partez dans le rugby en tant que rugbyman professionnel, il y a un grand risque que votre carrière s'achève assez rapidement pour une question de blessure. Ça, c'est assez statistique. Donc, le fait de ne pas faire d'études en parallèle est un risque énorme.
Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des tremplins. Par exemple, on voit de plus en plus de grandes écoles qui permettent à des sportifs de niveau d'accéder à leur formation en admission parallèle.
Ouais.
Mais sans avoir les mêmes exigences que par rapport aux étudiants classiques.
Mon dernier frère, qui est aussi un bon joueur de tennis, a fait ses études aux États-Unis, où là, clairement, c'est une
pratique... C'est donc un virus de famille.
C'est un virus de famille. C'est une pratique très courante, effectivement, de recruter des sportifs de haut niveau, leur donner des bourses pour leur permettre de continuer de financer leurs études, parce que ça coûte cher aux États-Unis, et en même temps de concilier leurs études. Je pense qu'aujourd'hui, quand je compare le système américain par rapport au système français, si vous voulez faire l'IX ou HEC, c'est quasiment impossible, hein, parce que le niveau d'engagement, notamment pendant la partie de classe préparatoire pour atteindre ces écoles-là, n'est pas compatible avec la pratique d'un sport de niveau pendant cette période-là. Enfin, Damien et moi, on a un peu arrêté pendant deux ans le tennis, parce que c'était pas compatible. Je pense qu'il y a des systèmes à faire évoluer. Alors, vous mentionnez ce point-là. Alix, je ne crois pas qu'encore aujourd'hui il fasse d'admission parallèle pour des sportifs de haut niveau, mais peut-être que ça va venir et c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée.
C'est beaucoup les écoles de commerce, je pense.
Ouais, non, bien sûr. Non, mais je suis plutôt pour, parce que ça aussi amène des gens avec des profils assez différents, des gens qui ont réussi à se battre pour atteindre ces niveaux-là. Et clairement, il faut une certaine dose de persévérance et d'investissement. Donc, c'est vraiment pas stupide de réfléchir selon ces lignes. Maintenant, j'ai pas l'impression que, quand je compare avec des systèmes américains qui sont beaucoup plus développé de ce point de vue-là, on est très très loin encore pour arriver à ce niveau-là.
Alors juste un petit parallèle, une petite réaction quand tu parlais de l'IX. Le lauréat de cette année, Johan Colliot, qui était judoka de haut niveau, a intégré Polytechnique par une voie parallèle, puisqu'il avait une formation universitaire. Donc, et qu'il a présenté un dossier d'admission. Je ne sais pas si c'était en deuxième année, directement en deuxième année.
C'est super. Moi,
il y a des exceptions.
C'est génial. Mais ça n'existait pas à l'époque.
Mais justement, de voir cet investissement très important récompensé par le prix Bernard Destremaux, qu'est-ce que ça a représenté à vos yeux?
Écoutez, c'est par Gilles que j'ai eu connaissance de l'existence de ce prix. Mm-hmm. Effectivement, avec Damien, on a fait pas mal de fois les championnats de France universitaires, et chaque fois on était frappé de voir que, notamment un peu moins chez les filles mais surtout chez les garçons, on était entre guillemets les seuls à avoir fait des études. Alors il y a ce que disait Gilles, et les gens qui, enfin, c'est pareil, hein, c'est pas du tout pour critiquer les études pour devenir professeur de sport, mais c'est vrai que c'est un niveau d'études qui est assez différent, et donc on se retrouvait à jouer contre des joueurs qu'on connaissait par ailleurs mais qui étaient des gens qui faisaient des études de sport, donc universitaires, mais qui étaient vraiment dans la continuité de ce qu'ils avaient fait côté pratique sportive. Et donc, de fait de voir que nous, on était toujours un peu tout seul, où parfois on voyait, je me rappelle à mon époque, il y avait un mec qui était pharmacien, qui était un très bon joueur aussi, mais on était très isolés en termes de gens qui avaient à la fois fait des bonnes études et combiné ça avec un niveau de sport important. Et donc, ça m'a interpellé, Damien aussi, d'avoir qu'il y avait ce prix qui récompensait à la fois un bon niveau de sport et un haut niveau d'études. Et donc, comme le disait Gilles, il y a cette remise des prix qui se fait à l'Institut, c'est très solennel. C'est assez émouvant. Mes parents étaient là, c'était un bon souvenir.
Et puis justement, vous êtes le premier tennisman qui a été avec votre frère récompensé, donc un petit peu à l'instar du fondateur du prix. Symboliquement,
symboliquement, c'est très fort. Alors, nous, on était clairement très très loin du niveau de Bernard Destremaux, mais c'est sûr que c'est un beau symbole.
Oui. Je voudrais quand même rajouter que quand j'ai appris par un ami qu'il existait dans le monde du tennis deux frères, dont l'un avait été à moins 15, l'autre à moins 30, qui avait fait Polytechnique et Centrale et puis une école d'affaires, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, c'était encore des affabulateurs qui gonflent leur classement. Je lui ai dit, c'est impossible, parce que c'était une espèce de recherche que mon père déjà avait de son temps, si vous voulez, assez ancienne. Et je me suis dit, c'est pas possible, ce n'est plus possible.
Vous êtes donc l'oiseau rare.
Donc, nous sommes rencontrés, et ça a été évidemment... pour moi, un grand plaisir de présenter ces candidats, d'introduire ces candidats à l'Académie. Et mon idée a été suivie par le bureau de l'Académie.
D'accord. Et donc, justement, vous-même, vous avez suivi un cursus à Sciences Po. Vous avez beaucoup pratiqué le tennis plus jeune. Vous devez être très ému quand vous voyez ces lauréats récompensés.
Oui, bien sûr. C'est une émotion d'abord, parce que c'est une commémoration, un souvenir pour moi de mon père et de ses idées. C'est pas tellement un regret pour moi parce que j'ai réussi des études de bon niveau et j'étais un sportif amateur éclairé. J'ai joué au rugby, j'ai joué au tennis à un niveau moyen. J'ai fait d'autres sports, de ski, etc. Je n'ai jamais été poussé, peut-être par mon père d'ailleurs, dans la voie du sport, probablement parce que, bien que modestement j'avais des dispositions, je dirais, tout à fait correctes, il craignait cette forme d'aliénation qu'il voyait déjà arriver dans les années 60 et les excès de la pratique unique d'un sport. Et puis, il y avait aussi peut-être un petit peu de passéisme, de nostalgie de sa part. Il voyait que les sports évoluaient, que je ne serais pas dans l'ambiance que lui avait connue, qui était une ambiance de pur amateurisme, où on était invité partout, dans des conditions exceptionnelles. Et il craignait que, probablement, que j'ai des désillusions dans une vie de sportif de haut niveau. Voilà.
D'accord. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une très longue vie au prix Bernard Destremau. Alors, Cédric Desbourdieux.
Je voulais juste rajouter chose. C'est un prix donc, qui est distribué sous forme d'une dotation financière, qui est de l'ordre de 1 300-1 500 euros aux récipiendaires. Donc, ce prix peut tout à fait recueillir des legs ou des dons. Les personnes sont intéressées à le développer pour que le montant distribué soit un petit peu plus important.
D'accord, très bien. Alors les personnes intéressées peuvent contacter l'Académie à ce titre. Cédric Desbourdieux, Gilles Destremau, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce prix auquel on souhaite une très longue vie et pérennité.
Merci à l'Académie.